podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité ou bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici un nouveau podcast dossier de Frontières des séries. En juin 2007, HBO prenait la difficile décision d'arrêter la production de Deadwood au grand dam de nombreux fans de la série et de libérer de ce fait sa grille de programme afin d'y accueillir la nouvelle venue John from Cincinnati. Deux mois plus tard, la série rend son dernier souffle au terme d'une première saison de 10 épisodes, véritablement éreintée par la critique et n'étant jamais parvenue à fédérer les spectateurs de manière satisfaisante. Et pourtant, John from Cincinnati partait sous les meilleurs auspices. HBO, croyant probablement en son nouveau bébé, a diffusé le pilote à la suite du dernier épisode des Sopranos, qui, comme tout le monde le sait, fut l'un des plus gros scores d'audience de la chaîne câblée. Aux commandes du show, on retrouve Kem Noon, écrivain américain prometteur, mais surtout David Milch, à qui l'on doit entre autres, avec Steven Bochco, NYPD Blue. Devant la caméra, il y avait du beau monde également, puisque la série pouvait s'enorgueillir d'un casting réunissant Bruce Greenwood, Rebecca De Mornay, Brian Van Holt, Ed O'Neill et Luke Perry. Et enfin, le pitch laissait augurer d'une série iconoclaste, originale et réflexive. Nous y rencontrons les trois générations de la famille Yost vivant à Imperial Beach, au lieu de la pratique du surf au sud de la Californie. Le patriarche tout d'abord, Mitch Yost, ancienne gloire du surf, et son épouse survoltée Sissy. Leur fils, Butchie Yost, un temps grand espoir du surf, devenu toxicomane. Et enfin, le fils de ce dernier, Sean Yost, étoile montante de la discipline et confié à la garde de ses grands-parents. Tous ces personnages voient rapidement leur destin conflictuel chamboulé lors de l'arrivée d'un mystérieux jeune homme, prénommé John, et prétendant venir de Cincinnati. Au même moment, d'étranges phénomènes se produisent, des miracles surviennent, laissant à penser que John n'est pas innocent à ce sujet. Et c'est Tilman Villette qui analyse la série aujourd'hui avec nous. Bonjour Tilman.
Bonjour.
Et en notre compagnie, Nathanaël Picasse.
Bonjour.
Alors Tilman, avec autant d'ingrédients a priori positifs, comment peut-on expliquer un tel échec et qui reste l'un des plus cuisants pour HBO ?
Eh ben c'est vrai que par rapport aux ingrédients qui étaient prévus dans la recette de cette nouvelle série, tout portait à croire en tout cas que ça allait être un très grand succès, en tout cas quelque chose qui allait marquer à nouveau un tournant sur la chaîne HBO qui, bon, a toujours privilégié quand même des séries de qualité, des séries innovatives. Et là, pour le coup, on avait, je dirais, une série qui se positionnait comme étant une sorte d'œuvre à la David Lynch, aux frontières du fantastique, et avec également donc des personnes à l'écriture qui étaient quand même pas n'importe qui, des acteurs qui étaient pas non plus n'importe qui. Donc on s'attendait vraiment à quelque chose de vraiment bien.
Puis avec un lead-in au niveau du pilote, le dernier épisode des Sopranos.
Ça marquait quand même une énorme confiance de la part d'HBO de vouloir absolument lancer cette série à la suite du dernier épisode des Sopranos. On se doutait que ça être un carton d'audience et donc évidemment les espoirs étaient énormes que le public des Sopranos éventuellement puisse embrayer sur une autre série. Et surtout il y a quand même eu la mort de Deadwood aussi. Pour le coup, il y a eu pas mal de pétitions à l'époque pour que Deadwood survive. HBO a quand même supprimé Deadwood pour pouvoir mettre John from Cincinnati à la place. Grosse erreur, on va dire, pour le coup, puisque la série n'a jamais trouvé son public. Pourquoi? Il faut tout simplement se rendre compte, et ça je crois qu'on le remarque dès le premier épisode, que John from Cincinnati, il ne caresse pas son spectateur dans le sens du poil. Ça veut dire que quand on voit les premières intrigues, ce n'est pas très sexy, les acteurs sont assez ternes, il y a des difficultés parfois d'imbrication dans les différentes histoires, on ne voit pas trop où ça va nous mener. Et puis on a ce personnage donc de John qui arrive dans cette famille dysfonctionnelle, qui apparaît comme une sorte de simplet étrange et n'attire pas la sympathie non plus du spectateur. Et à la fin de ce premier épisode, de ce pilote, il y a également des éléments fantastiques qui apparaissent. Donc ça fait un peu beaucoup, c'est un peu chargé les 50 premières minutes. C'est chargé, mais malheureusement pas d'éléments qui donnent envie forcément de voir la suite. Pour rentrer plus précisément dans l'histoire, comme tu le disais, on va suivre donc cette famille dysfonctionnelle, les Yost, sur trois générations. Il y a des grands-parents qui sont Mitch et Sissy. Alors les grands-parents Yost sont des jeunes grands-parents, donc ils ont la bonne cinquantaine. Ils possèdent un magasin de surf à Imperial Beach, qui est une ville située donc pas très loin de la frontière mexicaine. au lieu également donc du surf. Et Michio, sa vie tourne autour du surf puisque c'est une ancienne légende du monde du surf. Il a eu beaucoup de succès pendant sa jeunesse et il a dû progressivement, en tout cas, arrêter la discipline suite à une blessure qu'il avait eue au genou qui ne guérissait pas. Il est marié avec Sissi et c'est un mariage assez tumultueux parce que Sissi, c'est une femme un peu survoltée, un peu dépressive, maniaco-dépressive, on va dire, qui aime bien tout contrôler, qui aime bien avoir le dessus sur tout le monde. Et avec elle, il gère cette boutique de surf. Mais on voit clairement dès le premier épisode que leur mariage ne tient plus qu'à un fil puisqu'il y a quand même pas mal de tensions et surtout qu'ils ne sont pas aidés, en tout cas, par le reste de la famille, puisque leur enfant, leur fils, Butchie, qui a été pendant longtemps un espoir de cette discipline du surf, a été déchu et il est tombé dans la drogue, en fait. Donc, au moment où il était sur la phase ascendante, il a commencé à se droguer. Et puis, évidemment, les choses entraînant d'autres, il a commencé à boire également. Et puis, sa carrière est partie à volo. Et enfin, il y a la dernière génération, le fils, donc Sean, qui est un adolescent, qui est en train progressivement de se faire remarqué en fait par différents sponsors et qui fait évidemment la joie de ses grands-parents puisque c'est eux qui en ont la garde suite au problème de toxicomanie de son père et suite à l'abandon qu'il a eu de sa mère aussi à la naissance. De son grand-père, il fait la joie parce que il est doué pour le surf, mais de sa grand-mère parce que il pourrait avoir une carrière. Et ça aussi, c'est un grand élément de la série, c'est que il y a les personnages qui souhaitent donc faire du surf pour le plaisir de faire du surf et d'autres personnages qui souhaitent faire une carrière par rapport à ça. Elle le pousse à avoir des sponsors alors que le grand-père, lui, préférait qu'il reste en dehors, surtout quand il voit ce que ça a donné avec son propre fils.
Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique un peu le désintérêt du public pour la série? C'est le côté surf, parce que d'après ce que je viens d'entendre, j'ai pas vu la série donc je peux pas la juger, mais d'après ce que je viens d'entendre, on parle beaucoup de surf dans la série, c'est quand même un monde très à part malgré tout. Est-ce que ça n'est pas un peu trop opaque, justement, un peu trop rébarbatif?
Oui et non. En fait, dans le premier épisode, dans le pilote, c'est vrai qu'on pose les bases et on parlera un peu plus de surf, on en verra aussi un petit peu. Puis finalement, dans le reste de la saison, le surf, ça devient vraiment quelque chose de complètement secondaire. C'est une sorte de contexte familial, mais ça aurait pu être le surf, comme ça aurait pu être le baseball, comme ça aurait pu être autre chose. Et finalement, à part évidemment des termes ou des lieux qui sont assez spécifiques à la discipline, on n'y reviendra plus énormément. Ce qui va faire énormément le sel de la série par la suite, c'est surtout les conséquences de l'arrivée de John. Et John, donc, arrive dans le premier épisode et rencontre certains personnages, notamment Butchie. Et l'arrivée de John va chambouler tous les personnages parce que au départ, on a l'impression que c'est une sorte d'arriéré mental qui ne fait que répéter ce qu'il peut entendre. Et donc, évidemment, les conversations sont aussi assez limitées. Il se dit venir de Cincinnati et pourtant s'intéresser au surf, ce qui est un peu étrange parce que Cincinnati, c'est quand même une ville d'Ohio qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'une côte. Les personnages, assez bizarrement, vont plus ou moins l'accueillir comme étant un jeune homme un peu dérangé, mais ils vont l'accueillir dans leur quotidien. Et cette arrivée correspond également à l'arrivée également d'autres phénomènes un peu paranormaux qui, pour le coup, en tant que spectateur, sont un peu déstabilisants, évidemment, puisqu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Tous les personnages, en fait, vont être plus ou moins affectés d'un élément paranormal dans leur vie, surtout dans la famille Yost. Le grand-père va commencer à léviter. On le voit à plusieurs reprises dans sa chambre, à quelques centimètres de hauteur, en train de léviter debout. Il ne se l'explique pas. Au début, il pense qu'il a un problème de tumeur cérébrale ou quelque chose du style. Finalement, il n'a rien. Butchie, lors de l'arrivée de John, il va arrêter de consommer de la drogue et ne va pas ressentir de manque non plus. Et enfin, Sean, lors d'une compétition au tout début de la série, va avoir un accident très grave et se briser la nuque. Les médecins vont dire clairement qu'il est en mort cérébrale et donc il va falloir le débrancher ou le laisser dans un coma artificiel. À l'arrivée de John, Sean va se réveiller miraculeusement comme s'il avait strictement eu aucune blessure. Donc ça pose un peu les bases aussi de quelque chose qui est au contraire complètement opposé à l'aspect très réaliste de la série. On est dans quelque chose alors de beaucoup plus fantastique, malgré tout avec une imagerie qui reste très sobre. Donc à part la lévitation, évidemment on remarque qu'il y a un petit peu d'effets spéciaux, sinon on ne voit pas de choses, il n'y a pas d'effets spéciaux pyrotechniques ou quoi que ce soit.
Tu parles de fantastique, d'éléments fantastiques, mais est-ce qu'on se place dans du fantastique traditionnel, ou bien est-ce que toute cette histoire de lévitation, de ce rapport à une croyance religieuse...
On va rapidement comprendre en tout cas qu'il y a probablement un aspect religieux également à cette histoire de John from Cincinnati. Si on regarde John from Cincinnati...
Le gars qui débarque, ça fait un peu messie, quoi.
Ça fait un peu beaucoup messie, évidemment, et surtout, bah, si vous regardez les initiales John et Cincinnati, ça fait JC, ça fait Jesus Christ. Donc d'accord. Voilà.
Ah, super les scénaristes.
Quoi. Alors... On aurait pu croire que ça aurait été, durant toute la saison, une sorte de métaphore de l'arrivée du Christ ou une seconde arrivée du Christ sur Terre. Et ça l'est à plusieurs reprises. Donc, on remarque que certains personnages ont des attitudes qui pourraient rappeler d'autres personnages qu'on a pu apprendre au catéchisme ou quoi que ce soit, comme le retour finalement de la mère de Sean, qui est en fait une actrice pornographique en quête de rédemption. Bon, ça fait un peu penser à certains moments à Marie-Madeleine qui essaie d'avoir également la miséricorde du Christ, etc. Alors, il y a également des scènes qui le laissent à penser. Donc, John a tendance à multiplier l'argent aussi très facilement, comme le Christ pouvait multiplier les pains. John, clairement, va dire à certains personnages de voir le monde comme son père le voit. On pourrait penser, quand je le dis comme ça, que c'est une série un peu prêchi-prêcha, catho, catéchisme, alors que c'est pas du tout ça. J'ai vraiment l'impression que les auteurs... ont vraiment voulu faire ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont dit, on va prendre des petits éléments qui nous intéressent, on va les mettre dans notre série, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir avec la religion. Il y a plein d'autres moments où on se dit qu'ils ne suivent pas forcément les schémas connus du catéchisme catholique. On n'est pas vraiment dans quelque chose qui va nous montrer, essayer de nous convaincre de devenir chrétien. Ou... Non, on n'est pas du tout dans cette approche-là. C'est vraiment plutôt une sorte de... On prend ce qui nous intéresse et on le rebalance dans notre histoire. Voilà. C'est très très particulier et évidemment ça n'a pas forcément toujours beaucoup de cohérence non plus parce qu'on essaie en tant que spectateur de vouloir une cohérence par rapport à ces événements. On voudrait y remettre ce terreau catholique que chacun éventuellement a pu avoir avec ses cours de religion, avec son catéchisme ou avec sa culture générale. Et pourtant par moments on y arrive et par moments on n'y arrive pas et c'est parfois un peu frustrant quand on ne parvient pas à remettre ces éléments-là dans le bon ordre.
Je suis pas fatigué.
C'est toi qui le sens. Tu peux lire un magazine, hein. T'es pas obligé de rester couché.
Pourquoi grand-mère t'en veut ?
Elle t'a vu très malade.
Ça va maintenant ?
T'as été blessé. Dis. Tu te rappelles rien ? De ce qui s'est passé après ta gamelle ? T'as été très très mal. C'était dur. Ta grand-mère et ton grand-père ont cru que tu t'en sortirais pas. Comme un max de gens.
Je me suis réveillé, j'avais un tube.
Lui, un jour, je lui ai mis de la crème chauffante sur l'entrejambe dans sa combi.
Il y a Bill qui était là. Et Zippy.
Et tu t'es rétabli. Personne n'aurait cru que c'était possible.
Pourtant, Zippy, je l'avais vu mort avant-hier.
Tu as cru qu'il était mort.
Je peux aller sur le half-pipe ?
Ta grand-mère est sortie fumer une cigarette.
Elle est toujours inquiète.
Tu te doutes que tu peux pas y aller la bouche en cœur et lui dire « Ça va, grand-mère » et faire ton numéro. Je te laisse sortir. Fais ce que t'as à faire, mais tu laisses grand-mère faire ce qu'elle a à faire. Ok ?
Merci, papa.
Il faut que tu comprennes qu'il t'est vraiment arrivé quelque chose. Elle va pas devant la maison, il y a 10 000 Pékins qui m'attendent.
D'accord.
Ils ont entendu qu'il s'était passé un truc, ils sont curieux.
D'accord.
Yo, papa, appelle maman, nom de Dieu. C'est pas du tout ce que tu crois. Rappelle-la.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Papa a dit, si je voulais faire du skate, je pouvais.
Oh, il a dit ça.
Et de ne pas aller devant.
et t'en donne des recommandations, ton père. Il t'a dit aussi de te briser le crâne pour la deuxième fois de la journée.
Grand-père, j'en ai marre de rester allongé dans ma chambre.
Ah bah ouais, c'est vraiment pas drôle, hein. Tu fais ce que je te dis, t'écoutes pas cet incapable. Et tu restes là jusqu'à ce que tu m'entendes te dire que tu peux sortir. C'est toi qui as installé le half-pipe.
Non, maman, c'est toi.
Tout ce que tu sais faire, c'est cracher de la fumée dans le téléphone. Oui, maman, je vais venir, maman. Désolée de ne pas avoir pu aider, maman. J'ai pas dit à Sean que tu viendrais peut-être. Non, je savais trop que les choses étaient nulles. Où est mon père, grand-mère? Où est mon père? Et tu l'envoies se briser le crâne.
Série HBO oblige, dont tu as beaucoup parlé de famille dysfonctionnelle. Comment est-ce que ça s'est présenté ici? Parce que alors, je suppose que tous les personnages ont des failles assez présentes. C'est vraiment une sorte de marque de fabrique dans les séries HBO. Je suppose que c'est le cas ici. Et est-ce que c'est intéressant pour le coup? Avec l'arrivée de John, est-ce qu'il y a quelque chose qui débouche là-dessus?
C'est assez intéressant, surtout qu'en fait, on va se focaliser vraiment sur une famille qui fait partie, je dirais, des blancs pauvres des États-Unis. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose qui se veut tape à l'œil ou quoi que ce soit. C'est vraiment la plongée dans cette population qui a du mal financièrement à joindre les deux bouts, qui a des problèmes parfois d'alcool, de drogue. On est très loin du glamour finalement qu'on pourrait s'imaginer le surfeur californien. Non, on est vraiment plongé dans la réalité quotidienne d'une famille blanche et pas très fortunée qui vit dans une sorte de petite maison, mais à la limite de la caravane résidentielle. Ces personnages auront également tous des failles assez marquées. Bon, peut-être le grand-père a des failles un peu moins intéressantes. Il a sa blessure à la jambe, il a ses problèmes avec sa femme. La grand-mère a une grosse faille aussi. C'est qu'elle porte sur elle le poids, une sorte de culpabilité, en tout cas par rapport à son fils. Parce que quand il était adolescent, elle était sous l'emprise du LSD. C'est une ancienne junkie. Et elle est une fois arrivée pendant qu'il était en train de se masturber. Sous l'emprise du LSD, elle lui a proposé de lui montrer comment il fallait faire. Et suite à ça, elle a toujours eu l'impression qu'elle avait bousillé en fait le mental de son fils et que tous les problèmes qui sont venus par après, le fait qu'il sorte avec une femme qui est devenue actrice porno, le fait qu'il soit tombé dans la drogue, etc., ben, soit de sa faute. Le fils, évidemment, sa grosse faille, c'est d'avoir abandonné plus ou moins l'éducation de son enfant pour plonger dans la drogue également. L'ex-femme qui revient, donc, qui a abandonné son fils pour devenir actrice pornographique. Et on a toute une série d'autres personnages comme ça qui ont à chaque fois des problèmes. Et l'arrivée de John va leur faire comprendre que ça peut être pardonné. Ils peuvent trouver la rédemption quelque part. Cette arrivée de John par différentes actions, suivant les personnages, peu importe, va permettre à chaque personnage, avec leur interaction avec les autres, de pouvoir se racheter éventuellement, de pouvoir relativiser certaines erreurs du passé. Bon, ben là, on rentre à nouveau, plus ou moins, on est dans le sous-texte bien pensant, effectivement, mais c'est présenté d'une manière qui n'est pas encore trop lourde, c'est-à-dire que c'est envoyé par sorte de messages un peu plus subtils aux personnages qui prennent progressivement conscience eux-mêmes que leur rédemption, elle est à portée de main et qu'ils peuvent l'avoir s'ils le souhaitent réellement et s'ils font les choses en fonction également pour l'obtenir. Autour de ce cocon familial, il y a d'autres personnages et énormément d'autres personnages dans John from Cincinnati, et c'est ça aussi qui parfois est très difficile à appréhender dans la série. Il y a d'abord principalement le personnage de Bill Jax. Donc Bill Jax, c'est un ami de la famille qui est un policier à la retraite en fait, qui prend souvent Sean sous son aile, puisque Sean a parfois l'impression de pas être suffisamment écouté par ses grands-parents. Évidemment, les contacts avec son père sont plus que limités aussi. Et alors, ce personnage de Bill Jack, c'est un personnage un peu étrange parce qu'il vit dans une maison remplie de cages d'oiseaux à qui il parle constamment. Et il veut pas monter à l'étage de sa maison parce que c'est à l'étage que sa femme cancéreuse est morte. En fait, quand il parle à ses oiseaux, il parle à sa femme en espérant à chaque fois essayer d'avoir une sorte de retour vocal par rapport à ça. C'est un personnage, évidemment, dont sa faille, c'est de pas pouvoir accepter la mort de sa femme. Et au fur et à mesure de la saison, également, lui va commencer progressivement à pouvoir accepter cela et à pouvoir se dire qu'il pourra y penser à sa femme, mais elle ne reviendra pas. Il y a l'autre personnage de Luke Perry, donc, qui interprète Link Stark. Alors, Link Stark, c'est ce qu'on appelle, en fait, un scout talent, c'est-à-dire que C'est un peu comme un agent qui s'occupe des surfeurs et qui surtout les fait signer et les sponsorise par la suite. Bon, évidemment, les sponsorise, on fait aussi un petit peu ce qu'il veut de leur image, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui a coûté pas mal à la santé de Butchie quand il était sous les ordres plus ou moins de Link Stark. Là aussi, durant toute la saison, Link Stark va se rendre compte que ce qu'il fait, c'est pas très bien, quoi. Il exploite les gens. Et d'ailleurs, il y a une scène très drôle également dans le dernier épisode où il va commencer, probablement sous l'impact de la présence de John from Cincinnati, il va commencer à raconter tout ce qu'il a pu faire de mal dans sa société en exploitant les gens et finalement annoncer publiquement qu'il signe Sean sur son label mais qu'il démissionne également par la même occasion tellement ce qu'il a pu faire ne le rend pas heureux et que c'est la seule manière pour lui de pouvoir se racheter. Il y a le personnage de Kai, donc Kai qui est l'ex-petite amie de Butchie quand ils étaient au lycée et qui est l'aide dans le magasin de surf des grands-parents, Yoast. C'est un personnage qui est interprété en fait par une surfeuse qui s'appelle Kia Kenali. Elle apporte de un, à certains moments, effectivement, la caution réelle sur les scènes de surf puisque c'est vraiment elle qui fait évidemment ces scènes. Et c'est pas la seule en fait parce que le jeune acteur qui joue le rôle de Sean est également un jeune surfeur. Ce personnage de Kai est un personnage qui va être une des premières convaincues, en tout cas, de l'impact de John et de qui est réellement John par rapport à ça. Et il y a une scène alors assez amusante aussi où John dit à Kai, vois comme Dieu. Et il la touche à ce moment-là et elle voit en fait tous les autres personnages dans des situations un peu difficiles de leur vie. Elle voit finalement ce que voit Dieu et d'ailleurs elle en souffre énormément puisque avec ces visions-là, elle aurait eu l'impression d'avoir le corps mis en ébullition suite à avoir ressenti la douleur finalement de tous ces personnages mais en une seule fois. On a également donc le personnage de Barry Cunningham. Alors ça, c'est un personnage qui apparaît directement dans les premiers épisodes et en fait c'est un ancien habitant d'Imperial Beach qui avait quitté donc la ville suite à une adolescence pas trop évidente puisqu'il avait été maltraité par ses congénères adolescents à l'école, notamment Butchie, et qui revient en fait à Imperial Beach en ayant gagné au méga million et décide donc de ce fait d'acheter tout un complexe hôtelier dans lequel une grande partie de l'intrigue également donc de John from Cincinnati va se passer. Et c'est un personnage qui est complètement frappadin, qui a eu des problèmes de cerveau à un moment donné qui lui font voir des hallucinations. Lui aussi, son arrivée là-bas à Imperial Beach, ça va le ramener à ses anciens démons, mais il veut absolument racheter ce motel parce que c'est là également que, quand il était adolescent, il a subi des attouchements sexuels. Finalement, ça va lui permettre, là aussi l'arrivée de John, de pouvoir accepter son passé et arrêter de forcément se focaliser uniquement là-dessus et pouvoir un jour repartir d'un autre pied. D'ailleurs, il va retrouver à ce moment-là l'amour avec un autre personnage, enfin, puisque c'est la première fois qu'il aura une relation de toute sa vie. Pour finir vraiment la galerie des personnages, parce qu'il y en a encore tellement d'autres, mais dans les plus importants, c'est les deux personnages dont j'ai pas compris l'intérêt. C'est le personnage de Palaka et de Freddy Lopez. C'est des sortes de malfrats qui viennent d'Hawaï, des dealers. Alors au départ, on pense qu'ils sont là pour pouvoir récupérer de l'argent ou bien des choses chez Butchie, évidemment le toxico. Et en fait, ils vont faire toute la saison en étant presque observateurs. Observateur, mi-gardien de la famille Yoast pour voir qu'il ne leur arrive rien de problématique. Ces deux personnages complètement frappadingues qui ont tendance à s'automutiler l'un et l'autre, à se frapper. Personnellement, j'ai pas compris l'intérêt de ces personnages, ni forcément certaines interactions. Maintenant, c'est peut-être lié à l'interprétation personnelle de chacun. Mais moi, j'ai pas réussi à les relier à quelque chose.
Non, il fallait attendre la saison 10
Ça aurait peut-être été expliqué dans d'autres saisons, mais il n'y en aura pas.
Tellement heureux pour Sean.
T'as vu? Je fume à l'intérieur.
S'ils avaient suivi mon idée à l'hôpital, il serait mort en fait.
Je t'ai cherché quand on est parti.
Oui, j'avais éteint mon portable. J'avais besoin de me faire à l'idée de ce qui arrivait à Shawnee.
Si je t'avais demandé si tu l'avais éteint, t'aurais peut-être dit où t'étais.
Je me suis enfui ici, C'était pas pour échapper à tout ça. Mais sincèrement, ça va me demander un certain temps pour digérer ce qui vient de se passer. Et je ne refuse pas non plus d'entendre les reproches que tu m'as fait récemment. Mais ça aussi, je vais mettre du temps à le digérer.
Tu veux voir Sean?
Il est dans sa chambre.
Vas-y.
Ce que tu m'as dit à l'hôpital m'a rempli de honte, Sissi. Et j'ai pris conscience du mal que je t'avais fait avec mes maladresses. Mais bon, ça c'est à moi de le gérer. Et j'aime autant que Chenille ne me voit pas dans cet état-là.
J'ai pas ton intelligence, Mitch, imprégnée de sagesse orientale. Mais ce que j'entends, c'est que la bonne marche à suivre pour toi, c'est de faire ce que tu veux. Ce n'est pas une grande nouveauté.
Si.
De toute façon, on est très occupés ici. Va méditer tranquille. La personne qui t'a ramené de l'hôpital pourra te déposer.
Ce qui est en soi une autre façon de dire... Oui, il est temps de faire un break. J'y vais. Il y a une meute dehors. Je file par derrière en sautant la palissade. Vous devriez vous y habituer.
Ouais, peut-être pas, Mitch.
Le plus grand problème de cette série, de ce que tu en dis en tout cas, c'est que ça a l'air de partir dans tous les sens. En tout cas, autant pour les personnages que pour les intrigues. Est-ce qu'on s'y retrouve quelque part? Est-ce qu'on sait de quoi on parle? Parce qu'il y a des éléments fantastiques, on parle plutôt après de côté humain assez concret. Est-ce qu'on sait où ça va?
Non, et je pense que même les auteurs ne savaient pas vraiment où ils voulaient en venir, tout simplement. Je crois qu'ils voulaient expliquer que pouvait être la situation de vivre un ou des miracles à l'heure actuelle. Comment les gens vont-ils réagir par rapport à ça? Également, comment peut-on trouver la rédemption par rapport à ses erreurs ou par rapport à son passé? Comment peut-on trouver la tranquillité? Je crois que le personnage de John from Cincinnati représente en fait tout ça, toute cette difficulté parfois à traîner son passé ou ses erreurs.
Oui, en même temps, c'est fait avec la délicatesse d'un pachyderme, quoi. L'arrivée, Jesus Christ, enfin, c'est pas très délicat quand même.
Mais disons qu'au départ, bon, personnellement, moi, j'ai pas fait le lien directement. À partir du moment où le personnage commence à parler de son père, que son père voit tout, que son père peut tout régler, bon, bah, évidemment, on fait le lien directement. Et après, quand on réfléchit un peu, on remarque qu'il y a quand même certaines figures qui sont très proches des histoires qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans la mise en scène de la série, c'est pas beaucoup plus facile non plus à suivre, parce que par moment on passe du coq à l'âne, donc c'est-à-dire qu'on passe d'une scène avec des personnages à une autre scène qui n'a pas forcément grand-chose à voir, et puis parfois certains personnages aussi, surtout le personnage de John, va avoir ce qu'on appelle la projection astrale, donc ça veut dire qu'il fait partie de certaines scènes et qu'à d'autres moments, on le voit avec d'autres personnages, une scène qui est censée se passer au même moment. Le spectateur sait que ce n'est pas en soi le vrai John, mais plutôt une sorte de projection de lui-même qui va parler aux autres personnages. Mais c'est pas easy toujours non plus. Hein.
Tu m'étonnes que le public n'ait pas suivi. Vrai que ça me donne envie de partir en courant. Quoi.
Alors, c'est durant ces projections astrales aussi que John fait autre chose que répéter. Parce que normalement, en fait, il fait que répéter les choses qu'il entend, si bien que la plupart du temps, quand il a une discussion avec quelqu'un, ça n'a ni queue ni tête, puisqu'on aboutit toujours à une impasse lexicale. Mais là, quand il est en période de projection, il peut parler, en fait, comme s'il était libre, comme s'il avait enfin une pensée. On aura une scène qui est pas mal du tout, par contre, dans le sixième épisode, à la fin, où John va faire une sorte de sermon. C'est-à-dire que on va avoir tous les personnages qui n'ont finalement rien à faire ensemble, mais autour de l'hôtel, ils vont être comme un peu hypnotisés et John va faire un sermon sur comment les personnages devraient agir, sur ce qu'il s'est passé, va faire une sorte de, parfois aussi de résumé de la situation générale de chacun. C'est une scène où on ne comprend à nouveau pas tout, malheureusement, mais qui, en tant que spectateur, moi, m'a un peu scotché, parce que il y a une sorte de puissance dans cette scène-là qui donne envie d'écouter ce sermon, finalement, de la même manière que les personnages vont l'écouter aussi. Et là, il y a également un autre parallèle que je peux faire suite à ce sermon, c'est par rapport au personnage de Cassie, en fait, qui est un personnage secondaire, une jeune femme documentariste qui va être engagée par Link Stark, surtout pour créer la discorde entre le grand-père et la grand-mère de Sean pour que Sean puisse être mis sur le label. Soit, en fait, cette documentariste filme énormément les personnages, tout le temps, quasiment même. Et on a l'impression que quand cette jeune femme filme ou quand elle revoit les images sur l'écran, cette jeune femme, c'est un peu nous. C'est un peu le spectateur de la vie des autres. Bon, il y a une sorte de mise en abîme aussi par rapport à ça, qui n'est pas inintéressante. Et là, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais j'ai l'impression également que John from Cincinnati représente la folie créatrice également. Donc les auteurs, David Milch et Ken Noon, ils ont des petites marionnettes, ils en font ce qu'ils veulent finalement. Et John, il est là pour agencer les marionnettes, faire avancer comme une sorte de dramaturge, de grand dramaturge. Durant cette scène à la fin de l'épisode 6, on a l'impression que ce dramaturge commence à relancer les cartes et à remettre les personnages dans chaque case et les remettre sur le droit chemin. Et pendant ce temps-là, cette jeune femme, elle filme et elle voit cette scène comme nous, finalement, on la voit aussi par le biais de notre écran. Ah, voilà, c'est aussi toujours un petit peu lié à l'interprétation. Je peux complètement me tromper. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, ça fait énormément penser au cinéma de David Lynch quand même. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Des discussions, des dialogues, en tout cas, qui n'ont ni queue ni tête à certains moments. Des personnages un peu grotesques, un peu burlesques. Des personnages qui sont blessés, qui ne trouvent pas le bonheur. On retrouve le cinéma de Lynch. À la seule différence, c'est que dans de nombreux film de David Lynch, c'était envoûtant au moins. Ici, ça l'est pas. C'est un des gros échecs de John from Cincinnati, ou en tout cas, à trop peu de reprises, John from Cincinnati est envoûtant. Comme cette scène à l'épisode 6, d'autres scènes, ça peut être envoûtant, effectivement. Mais à la majorité des cas, ça vient tourner à l'ennui à certains moments. Je dois dire qu'au départ, j'étais un peu dedans quand même. Je voulais voir la suite, ainsi de comprendre. Vers la fin de la saison, j'étais quand même assez content que ça se termine enfin parce que ça n'aboutissait à rien. Et d'ailleurs, la fin de la saison, à part la rédemption de certains personnages, sur de nombreux plans, elle n'aboutit pas à grand-chose non plus. On ne sait pas ce que vont devenir des personnages. On ne sait pas non plus ce qui va pouvoir advenir de certaines sous-intrigues qui avaient été lancées. C'est quand même un peu frustrant malgré tout.
Souvenons-nous quand même que Deadwood s'est aussi terminé de cette manière, en restant sur un plus ou moins statu quo et certains personnages qui n'ont pas beaucoup évolué de la première saison jusqu'à la dernière.
Le problème, c'est que je crois que d'un côté, c'est peut-être dommage que ça n'ait pas été plus loin. De l'autre côté, je suis pas sûr que si ça avait duré plusieurs saisons, les auteurs auraient apporté des réponses ou auraient clôturé un jour l'histoire, parce que je crois que eux-mêmes ne savaient finalement pas où ils allaient constamment, et que moi je trouve ça se sent surtout dans la deuxième partie de la première saison. On a l'impression que chaque épisode est écrit après le suivant et qu'il n'y a pas une sorte d'arc. Peut-être, oui, le dernier épisode qui clôture certaines choses, mais il y a plein d'épisodes où les scènes, j'ai l'impression, soit sont même parfois peut-être improvisé à certains moments, ou en tout cas il y a une bonne place qui est laissée à l'improvisation, ou écrite finalement au fur et à mesure. Ça donne une série qui est très très bavarde, qui est très absconce, où il y a des moments de grâce, il y a des moments...
Parfois contemplative, non ?
Parfois très contemplative aussi.
J'avais ce souvenir là, moi, parce qu'il y a très très longtemps que je l'ai vu et j'ai ce souvenir.
C'est pas une série qui est effectivement à conseiller à tout le monde, parce que je crois que la majorité des gens risquent de ne pas rentrer tout simplement, et comme les spectateurs ne sont pas rentrés à l'époque de la diffusion. Alors néanmoins, John from Cincinnati fait l'objet d'un petit culte, hein, donc il y a une bonne base de fans qui sont en adulation devant cette série là et qui a espéré vraiment que cette série soit perdure, ou en tout cas que cette série acquiert par la suite un statut de culte.
Ouais. Et qui passent leur temps à décortiquer le moindre fait
et
geste de
John. Et qui passent
leur
temps, évidemment, à essayer de trouver des interprétations à chaque scène un peu bizarre ou à chaque personnage un peu spécial. Essayer de trouver des liens aussi parfois avec des éléments religieux. Ça, on remarque...
La définition même de la série culte.
Voilà. Et je pense qu'elle est progressivement en train de le devenir. Et c'est une série finalement que... Enfin, en tout cas, j'ai remarqué, les gens découvrent seulement depuis 2-3 ans. Elle est morte finalement quasi à sa diffusion en 2007. Il lui a fallu 4 ou 5 ans avant d'un peu ressusciter. Alors voilà, on utilise le terme de résurrection.
Bien choisi.
D'ailleurs, il y aura une sorte de simili-résurrection aussi dans la série pour ceux qui voudraient la voir.
Eh bien voilà, donc une série assez particulière, assez spéciale et assez originale, quoi, on peut le dire, à découvrir, peut-être pas pour tout le monde.
Je vais partir du principe qu'il faut l'essayer, il y a peut-être des gens qui vont y être réceptifs. Moi j'y étais pas trop, mais c'est pas néanmoins une série que je considère comme mauvaise non plus.
John from Cincinnati, une série à tenter, à essayer et peut-être à adopter. C'est ainsi qu'on referme notre podcast aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine émission.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.